Et maintenant, le journaliste Éric Roux est également fondateur de la manifestation L'Étonnant Festin, en compagnie de son invité Michel Brasse, le grand chef aveyronnais installé à La Yolle.
Bonjour à tous. Alors, c'est très intéressant le lancement parce que pour connaître un petit peu Michel, il aime bien qu'on l'appelle cuisinier et pas chef. C'est ça, hein?
Ben oui.
Tu parles bien dans le micro, tu le poses carrément sur ton menton.
Oui, mais t'as l'habitude de ça, moi je sais pas faire. Quoi, les micros, non, c'est pas mon truc.
T'as bien un petit peu utilisé les micros. En tout cas, merci beaucoup d'avoir descendu la montagne pour venir jusque dans la plaine Basse-Auvergnate, à Clermont-Ferrand. On se voit ou on se tutoie ?
On se tutoie d'habitude.
Bon, d'habitude on se tutoie. Tu me disais ce matin 6 degrés à La Yolle ?
Oui, à mon jardin, oui.
Ouais, ben c'est nettement mieux qu'à Clermont où il a fait à peine 2.
Ah mais au restaurant, là, ça avait gelé.
Ça avait gelé au restaurant, d'accord. Michel Brasse, si j'ai souhaité t'inviter pour cet étonnant festin, c'est parce que déjà là, je pense que tu es l'un des cuisiniers connus qui correspond plus à l'esprit de l'étonnant festin. Le sous-titre de l'étonnant festin, c'est goûter le paysage. Et tu avoues très souvent être lié à ce territoire qui est ton Aubrac, où tu essayes en fait d'emmener les gens à découvrir ce qu'est l'Aubrac au travers de ta cuisine et maintenant celle de Sébastien, ton fils.
Oui, alors tout à l'heure, tu m'as posé l'épithète de cuisinier. Enfin, pour moi, cuisinier... Je ne voulais pas être cuisinier. Je voulais faire une carrière d'ingénieur, ce qu'a fait mon second fils après. Donc pour moi, cuisinier, je suis habité par la cuisine, je vais vous dire quand même à mon âge. Mais pour moi, la cuisine, ça a été un moyen d'exprimer mes sentiments, d'exprimer mes sentiments et de... Comment vous dire ça? Ça a été... de poser ma page d'écriture par rapport à mon ressenti. Comme un peintre peut avoir une toile, un peintre une partition. Moi, je me sers de la cuisine. Et puis, je trouve que la cuisine, c'est le partage, c'est l'amour de l'autre. Et pour moi, c'est indispensable. Donc, pour alimenter le propos, bon, j'ai abandonné un peu. La cuisine, je la fais toujours, pour mes petits-enfants en plus. Non, le restaurant, c'est Sébastien depuis une vingtaine d'années, depuis 99, ouais, 15 ans, je ne sais pas trop exactement.
Il y a un film d'ailleurs sur...
Oui,
sur
entre les bras, oui. Et je m'occupe d'un jardin que j'adore beaucoup et dans lequel j'arrive à cultiver à peu près 120-130 variétés végétales de semences du monde. Parce qu'avec mon épouse, on a été des routards dans l'âme, sac à dos, et on a fait un peu le tour du monde. Et on a ramené beaucoup de semences, de rhizomes, d'horizons divers que j'ai dans ce jardin. Alors, ce jardin, c'est un peu un coin de l'univers. Alors, pour en revenir à tes propos précédents, c'est vrai qu'aujourd'hui, autre que le jardin, je m'investis beaucoup auprès des personnes âgées, du monde de l'handicap. J'ai fait de l'accompagnement de fin de vie, enfin parce que je suis sensible à la détresse humaine. Et je trouve que la cuisine, c'est un bon moyen pour essayer de renouer tout ça.
Ça correspond totalement à ce que je disais tout à l'heure, cette envie de t'inviter. C'est que l'étonnant festin, c'est aussi un petit peu ce que tu es en train de raconter. C'est-à-dire que juste à côté, on est passé à côté du stand du Secours Populaire, qui est en train de monter un jardin, qui est en train de monter des cuisines, pour faire de la cuisine avec des produits locaux pour les gens en situation de précarité. Je t'ai montré aussi le stand de Terre au Terroir. C'est un jeune d'origine maghrébine qui est cuisinier et qui emmène les jeunes du quartier visiter des fermes, visiter les artisans autour de la région pour leur faire découvrir quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de découvrir. Et je pense qu'il y a une chose importante dans la cuisine, c'est ce qu'on dit à Étonnant Festin, c'est un fait culturel total. On peut tout aborder avec sincérité, curiosité et créer en fait, essayer d'imaginer un monde que l'on souhaite et non pas un monde qu'on subit, et ça au travers de la cuisine, des producteurs et des artisans. Est-ce que c'est quelque chose que toi, qui te touche particulièrement ce propos-là et cette démarche-là?
Bon, peut-être je ne peux pas répondre tout à fait à ta question, mais
je te connais.
Oui. Non, mais je trouve que la cuisine, la cuisine de montagne, si vous voulez, la cuisine de montagne, telle que je la ressens... Moi, je suis autodidacte, je suis un fils de forgeron et mon épouse, c'est une fille d'agriculteur. Alors, vous savez, les codes de la gastronomie, on ne les connaissait pas. Et puis, il est arrivé un moment, on les a bannis parce qu'on voulait pas les, on ne les acceptait pas. Le fait de changer le couteau, de ne pas pouvoir rompre le pain. Enfin, je vous passe tous les détails. Et je trouve que cette cuisine de montagne, cette cuisine rurale, celle qu'on a pu côtoyer dans le cadre de nos voyages, avait cette faculté à rendre l'ordinaire en quelque chose de merveilleux. Vous pouvez avoir tous dans votre mémoire un souvenir de votre maman ou de votre papa qui avait trois fois rien, vous vous faisiez saliver. Moi, c'était la tartine de pot de lait quand je revenais de l'école. Et en réalité, c'était que de la pot de lait avec un peu de fromage râpé, du chocolat râpé dessus. Je veux dire qu'avec peu de choses, on arrive à le transcender. Et c'est ce que j'aime dans ces cuisines-là. Voilà.
Oh, justement, à propos de ces cuisines-là, une fois tu me dis, j'aime pas les tomates farcies au restaurant. Parce que tu me dis, en général, on a une tomate pas de très belle qualité, avec un bout de chair à saucisse racorni au milieu.
Bon, je vais te raconter la mienne.
Bon, vas-y, raconte.
C'est un exemple que j'exprime souvent. La tomate farcie que faisait ma maman ou ma belle-maman, c'était une tomate farcie d'abord. Elle avait été cueillie à son optimum. Elle était mûre, c'est clair. Et puis, elle avait rien pour la farcie. On avait peu. C'était un bout de crosse de jambon, une tombée d'oignon, un peu d'ail, un peu de verre de blette, enfin, ce qui restait qu'il y avait sous la main. Et avec ça, on faisait avec du pain au levain qu'on avait trempé dans le bouillon ou dans du lait qui était essoré. Pain au levain, parce que le pain industriel, il file, les amidons ne sont pas transformés. Donc, elle faisait une farce soyeuse qu'elle mettait dans la tomate. Alors, le cuisinier, pas tous, heureusement. Il prend une tomate, celle qu'on lui a livrée. Alors vous savez, aujourd'hui, il y a des clones de tomates. Les tomates, plus elles ont la chair épaisse, plus elles se conservent et plus elles peuvent faire du transport. Non, une tomate, ce nom. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris le cuisinier. Est-ce qu'il a un jardin? Il n'en a pas, je ne sais pas. Il a pris une tomate lambda et puis il l'a farci. Et un cuisinier, c'est généreux, on ne peut pas l'enlever. Donc, qu'est-ce qu'il aura mis? Il aurait mis de la chair à saucisse, du veau, pourquoi pas du foie gras. Il est généreux. Heureux, le cuisinier, on ne peut pas le lui enlever. Pourquoi pas du foie, une râpée de truffe. Alors on met les deux tomates.
Ah oui, c'est chic quand même. Hein.
Ah oui, oui, oui. Et on met les deux tomates au four. Et on met la tomate de maman. 10 minutes, elle sort. Elle est là, c'est joufflu, avec la chaleur. C'est gourmand. Tu la goûtes, c'est soyeux. Tu as les babines qui coulent. Et tu regardes la tomate du cuisinier, oh là là, la tomate, avant de cuire la protéine animale qu'il y a dedans, la tomate se délite, il faut 45 minutes pour la cuire. Et quand tu la sors, la tomate ne ressemble plus à rien. Voilà. Et je préfère nettement la tomate de maman. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait paraphraser Georges Clemenceau qui parlait pendant la guerre de 14-18, il disait « la guerre est un truc trop important pour le laisser aux militaires ». Est-ce que la cuisine ne serait pas un truc trop important pour la laisser aux cuisiniers, Michel?
Mais tu sais très bien que j'aime pas le terme cuisinier.
Tu me racontais juste, quand on faisait le tour de l'étonnant festin, tu me disais que je suis en train de préparer un livre qui est très important parce qu'en fait, c'est un livre de transmission. Tu peux nous en dire un mot? Alors, tu m'as dit qu'il faudra 3 jours. On va essayer de concentrer un peu quand même.
J'ai le bonheur d'avoir une famille unie avec 2 garçons et 4 petits-enfants. Ils sont grands maintenant. Et quand ils viennent à la maison, ils sont heureux. Et ils voient un papy et une mamie qui sont bien dans leur peau, qui ont eu un parcours, qui aujourd'hui est un peu, on va dire, sous les étoiles, même que j'aime pas ce terme. Bon, ils ont une certaine aura, même si on a lâché la main. Et j'ai écrit ce livre, et le titre, ça sera Cheminement, parce que je veux dire à nos 4 petits-enfants d'où on vient. Comment on s'est construit par le travail, que le travail, ça peut avoir des vertus, qu'on s'épanouit, culturellement, on s'est élevé, socialement, on s'est élevé et on a rencontré des gens merveilleux. Et c'est un peu ce livre que je raconte autour de ma vie, sur 6 verbes que j'aime bien, c'est aimer, douter, je les ai plus en tête. Là.
Mais tu parles de cuisine, un peu.
Il y a un chapitre cuisine, oui.
Mais est-ce que tu leur fais les tomates farcies à tes petits-enfants? Est-ce que tu leur as fait les tomates farcies?
Évidemment.
Ouais. Est-ce que on parle de cette cuisine? C'est que moi, le terme que j'utilise, c'est cuisine populaire, cette cuisine de tous les jours, qui est à la fois la nécessité de nourrir notre corps, mais qui est aussi la manière de nourrir notre âme, notre esprit, ce que tu appelles amour, ce que tu appelles partage, etc. Il y a une double fonction. C'est Joseph Delteille, merveilleux auteur, qui a écrit ça dans la cuisine paléolithique. Est-ce que aujourd'hui il y a un enjeu extraordinaire, c'est que les gens reprennent en main leur cuisine, leur alimentation. Qu'ils aillent voir monsieur et madame Vang, qu'ils aillent au Jardin 10, qu'ils aillent voir Radix, tous ces producteurs de la région, et qu'ils se disent, je sais pas faire, mais je vais tenter, je vais fabriquer, je vais tester, et pourvu que je trouve le goût que je recherche, ce sera la plus belle des réussites en termes de cuisine.
Oui, mais tu vois, moi j'irais même plus loin, Eric, c'est que je trouve qu'il y a une génération de cuisiniers aujourd'hui qui a pris conscience de ça. On a des cuisines aujourd'hui qui sont joyeuses, qui sont responsables. Et moi, c'est ce que j'ai appris dans le temps. C'est-à-dire que le chou, on prenait les rejets quand il était au printemps, on pouvait prendre les fleurs, on pouvait prendre la pomme.
Le grélou en patois, ça s'appelle. Ah, oui. Les repousses de chou, les grélous.
Ah non, on n'appelle pas ça comme ça.
Comment t'appelles ça?
Repunchou.
Repunchou, oui.
Voilà.
Qu'on a même au cas.
À peu près. Et donc, oui, moi, ce que... si vous voulez... cette génération de cuisiniers, elle travaille un peu comme moi, j'ai ressenti mon travail, c'est-à-dire que c'est pas bien beau, mais tout fait ventre. Hein. Les premières courgettes, tu les croques crues, les fleurs, tu peux les farcir. La tige de courgette, moi, je la travaille, j'enlève la cellulose, et mince c'est fin. Enfin, vous voyez, je trouve qu'à un moment donné, être en phase avec un jardin... Tu vis avec la nature et tu la transposes à divers moments. Et c'est clair que... Moi, je dis souvent, bon, par rapport à mon gargouillou, qui a 40 ans, ce plat, il n'est jamais le même. La courgette qui va être dans le gargouillou ne sera pas la même au mois de mai qu'elle va être au jour d'aujourd'hui, vous voyez. Et donc, je m'adapte. Je m'identifie aux légumes, en règle générale, pour me transposer.
Tu parles beaucoup des légumes.
Ben oui, mon premier menu légumes dans ce pays voué à l'élevage, il date de 1978. Alors, je ne vous dis pas à l'époque.
Et tu regardais comment les éleveurs de veaux sous la mer?
Ils disaient, n'allez surtout pas chez Bras, on mange que de l'herbe.
C'est très intéressant. En plus, ça fait écho à une autre conférence qui va avoir lieu dans la journée. Ryoko Sekiguchi est juste assis devant, a écrit un petit livre merveilleux qui s'appelle Nagori. Nagori, en japonais, si je ne me trompe pas, ça évoque le regret de la saison. Et que le propre d'un produit, c'est quand on l'attend, quand il est là dans sa plus grosse production, et quand on va se dire « Ah, il va disparaître ». Et je trouve que ce mois de septembre est merveilleux parce qu'on a encore tout l'été qui est là, l'automne est en train de s'installer et on a les prémices de l'hiver en termes de produits. Et qu'on a un choix, c'est un peu pour ça qu'on a installé les Tonnants Festins au mois de septembre, on a un choix maximum. Et que le propos, c'est bien sûr... vous savez, il ne faut jamais... Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il ne faut jamais aller au marché en disant « je veux ça ».
Oui, tout à fait.
Oui, mais combien de gens disent « j'ai une liste » parce qu'ils ont une recette. Et la recette, moi, c'est un truc qui me fout toujours la trouille parce que « j'ai pas de persil, je ne peux pas faire la recette ». Tu mets autre chose ou tu ne le mets pas.
Non, on l'a évoqué plusieurs fois, Eric. Moi, je rêverais d'avoir une espèce d'académie ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas le terme, mais où on donne... quelques tours de main pour améliorer le quotidien. À la maison, trois échalotes. Moi, j'ai tout le temps de l'échalote. Avec de l'échalote, j'arrive à faire des merveilles. Je trouve.
Et encore un produit qui est très variable. Parce que clairement, au mois de juin, on trouve les premières échalotes nouvelles. L'une des spécialités de la Limagne, c'est l'échalote grise, qui est une merveille d'échalote, totalement différente de la cuisse de poulet. Juste en disant un nom, on entrebâille la porte sur une grande diversité de goûts et de manières de faire. Comment tu la travailles, toi, l'échalote grise, par exemple? T'en as dans le jardin?
Pas de celle-là, non. J'en ai une autre, mais pas celle-là. J'attends que tu me fournisses.
Ah ben, écoute, on a juste à faire le tour. Il y a Christophe Giraudon qui est derrière, qui est un limagnier pur jus. Il a des sacs d'échalote grise. Alors, je vous explique l'échalote grise. Toi, je prends un peu le... c'est... difficile à faire pousser, c'est difficile à récolter, c'est pas agréable à peler parce que la peau est très très dure. Et au milieu, vous avez un petit trikiki d'échalote comme ça, mais ça a un parfum. Vous savez, il y a un truc qui est formidable, un petit rôti de veau comme ça. Et vous mettez dans le jus du rôti de veau qui est en train de se faire, ces échalotes qui vont s'affaisser, même un petit peu légèrement grillées. Et ça va développer un parfum qui est extraordinaire. C'est pas une recette ça, c'est faire de la cuisine. Comment on pourrait imaginer cette académie du tour de main et de la cuisine populaire? T'as une idée?
J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps à Andorre là, et j'ai posé le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je cuisine tel que je cuisine aujourd'hui. Bon, ma maman, c'est vrai qu'elle m'a, elle m'a gourmandé, elle m'a fait des belles choses, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de l'observation. Si on le retrouvait, ça, l'observation, c'est à travers les écrans, mais on ne prend plus le temps de se poser, de regarder un produit, de le sentir, en fait, et ça change complètement la donne. Ça, alors là, pour moi, c'est radical.
Tu viens de parler de ta maman. Est-ce que tu penses que ta construction de cuisine et de goût, tu la dois justement à un cheminement de cuisine familiale? J'ai repris cheminement exprès. Hein.
Oui, mais non, mais moi je pense que c'est un environnement global. Ça peut être ma belle-maman, ça peut être la fête du village, ça peut être quand les voisins se réunissent. Ma belle-maman, elle se faisait la gloriole chaque année d'inviter tout son voisinage avec la plus grosse dinde. Or, c'était des dindes, elle ne rentrait même pas dans le four à bois, devait faire 12 ou 15 kilos, je ne sais plus combien. Il fallait un temps énorme pour la cuire, mais ce qui était le meilleur, c'était la peau. Et c'était le jus. Vous savez, il y a eu des dérives avec la cuisine nouvelle. Je vais pas te dire, tu sais, des années 80.
Ouais, ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine.
Oui, la nouvelle cuisine. Ou alors, il fallait dégraisser à mort. Et puis, toutes les sauces étaient montées au beurre. Alors, le beurre, il y en avait... pour que l'émulsion soit bonne, il faut 2 de beurre pour 1 de jus. Ouais. Et je trouve qu'un jus de poulet, avec les yeux, vous savez,
quand
du gras
perle,
dessus,
quand ça perle,
il n'y a rien de meilleur.
C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mainmise d'une représentation d'une cuisine de restaurant vue par l'intermédiaire de la télévision où tout est très spectaculaire. À la fois le cuisinier, le matériel, la recette qui est faite. Et on oublie en fait que le seul intérêt d'un plat...
C'est partagé.
C'est partagé. Et le rab. Comme tu dis, je peux en avoir un peu plus, c'est que la recette est bonne.
Oui, c'est vrai aussi.
Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Dans cette histoire, moi je reviens à cette histoire d'académie parce que je pense que c'est une idée qui pourrait être intéressante dans le projet de capitale européenne de la culture que veut déposer Clermont-Ferrand et de mettre effectivement un des centres du propos de culture, de mettre la cuisine, mais pas la cuisine chic. La
non,
cuisine,
mais pas du tout. La cuisine de tous les jours.
Comment l'imaginer cette histoire?
Eh bien, il faut y travailler.
Vous avez du boulot, hein? Vous avez du boulot parce que c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas les cuisiniers qui vont faire, c'est nous.
Non, mais il faut pas grand-chose. Il faudrait poser un placard qui se rime, comme je te disais, à l'échalote, peut-être le poireau, je sais pas. Non, des astuces, il y a des trucs...
Faire braiser, c'est juste
ouais,
des choses comme
des
ça.
Oui, mais des trucs, mettons, je sais pas, moi, quand je fais, pour mes petits-enfants, des raviolis, mettons, je fais une tombée d'échalotes avec du beurre, là, et puis après, je vais pas ramener de la crème, je prends du Saint-Mauré, que je vais délayer avec du bouillon ou de l'eau ou un jus de légumes, et ça fait quelque chose d'onctueux, et c'est pas gras. Et voilà, bon, il faudrait livrer plein d'astuces comme ça.
Ouais, des petites,
faire alléger la mayonnaise avec du yaourt, ça peut être magique. Ça va
comment tu fais?
Ah, ça, je te le dirai pas.
Et pourquoi? Vas-y.
Non, mais on fait une mayonnaise et après tu l'allèges avec du yaourt.
C'est-à-dire que tu remplaces à un moment donné l'huile par du yaourt?
Par du yaourt, ça amène un complément d'acidité, c'est soyeux, c'est léger.
Et elle ne tranche pas?
Oui, et à ce moment-là, quand tu manges les asperges, si tu fais ça, tu n'as jamais assez de mayonnaise par rapport aux asperges.
Vous avez noté, un yaourt pour la fin de la mayonnaise. C'est encore mieux qu'une mousseline où on rajoute du blanc cru battu en neige.
Oui, si tu veux, oui.
Ouais, c'est pas mal. Michel Bras, aujourd'hui, Sébastien est à la tête du Suquet, du restaurant, tu disais, depuis une vingtaine d'années, hein, ça fait...
Je sais plus, il travaille avec nous depuis...
Pas Mao Détain.
Il travaillait avec nous depuis toujours, d'ailleurs, 30 ans. Et il a repris l'entreprise il y a une dizaine d'années, 15, ouais. Voilà.
Ma question était très simple, en fait, parce que tu parles beaucoup de transmission. Est-ce que Sébastien, parfois, t'appelle en disant qu'est-ce que t'en penses? Une idée, une envie, un désir? Comment ça se passe aujourd'hui?
Non, ça peut arriver. L'autre jour, il m'a dit, je lui avais amené un produit, il m'a dit, comment tu le... T'imaginerais la recette, voilà, parce qu'il avait un trou, voilà. Mais... Non, mais bon.
Non, mais c'est pas juste, c'est pas le pouvoir d'eux, c'est un partage d'expérience.
Non, mais il faut savoir qu'avec Sébastien, la transmission s'est faite d'une manière, je peux pas dire, plus joyeuse, plus onctueuse, enfin, je sais pas si c'est le mot adapté, mais
c'est
bon.
Pas mal, c'est des bons mots pour parler de transmission.
Non, parce que ça s'est fait d'une manière, intelligente, les deux couples. Bon, il faut savoir que, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, avec mon épouse, on était hors système, hors code gastronomique. Pas changer le couteau, interdire de fumer, pas de nappe juponnante, rompre le pain, enfin, plein de choses comme ça qu'on avait mis en place il y a 30 ans. Hein. On était un peu à l'avant-garde. Aujourd'hui, dans tous les restaurants, on ne vous change plus le couteau. Oui. Et nous, on a instauré ça il y a 30 ans. Et à l'époque, quand les Parisiens descendaient, ils disaient ben, les Bras, ils n'ont rien compris à la gastronomie. Voilà. C'est le style de gifle qu'on se prenait dans la tête. Oh, c'était pas moi, c'était mon épouse.
Oui, c'est qui était au contact. Mais je me rappelle, moi, de discussions. Au début, ça n'a pas été facile.
Non,
ça a été
non.
Même très difficile.
Je sais, mais on a gardé notre cap. Non, alors j'en reviens à Sébastien. Si vous voulez, Sébastien, la cuisine qu'on a imaginée avec mon épouse, menu légumes en 1978, tout ça, on était un peu à l'avant-garde. On était dans l'ère du temps d'aujourd'hui. Et donc, avec Sébastien, ça s'est fait d'une manière... lui, il est jeune, si vous voulez. Mais ça s'est fait comme un fondu enchaîné. Il n'y a pas eu de rupture, voilà. Je veux dire, il trouvait que j'étais suffisamment moderne pour...
Pour prolonger la modernité voilà, que tu as mis en place. Voilà. Hein. Le gargouillou est toujours à la carte ?
Tout à fait, fait 40 ans.
Alors, le gargouillou, moi, j'ai toujours... Parce que le nom gargouillou, en fait, c'est une soupe auvergnate.
C'est pas une soupe, c'est un plat de pommes de terre.
Oui, mais c'est un peu... C'est un plat...
Avec le jambon, oui.
Avec le jambon. Tu as été chopé ce mot-là ?
Oui, mais tu sais pourquoi je l'ai chopé ? Parce que, bon, ce plat de pommes de terre avec du jambon, ma maman le faisait, ça, hein. Elle le faisait, mais je trouvais que ce mot gargouillou, pour moi, c'est une consonance de cuicui, de petits oiseaux, de fraîcheur. Et ce plat de patates, excusez-moi du terme, bon, Dieu sait si je les aime, ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai pris un peu le process, parce que le gargouillou, parfois, il peut y avoir jusqu'à 60 à 80 variétés. Et donc, on prend le jus des légumes pour faire la liaison et on prend le jambon pour le parfumer. Et donc, j'ai dit que le gargouillou de jeunes légumes était plus rafraîchissant que celui de pommes de terre.
Tu viens de citer le jambon. C'est une autre discussion qu'on a eue souvent. En Auvergne, et on intègre l'Aubrac, d'accord, à l'Auvergne. On peut ou pas ?
On verra après.
Il y a une discussion qu'on a souvent eue, c'est parler du rance. Le rance, en français, c'est dévalorisant, c'est pas bon. Pourtant, le lard gras, avec un petit marquage de rance, le gras de jambon légèrement marqué de rance, est-ce que c'est pas une des caractéristiques de notre goût à l'échelle du Massif central ?
Mais enfin, dans les cuisines rurales, les cuisines de montagne... Hein.
Oui, en Savoie, ils sont pas rances. Hein.
Ah, je sais pas.
Ils sont pas trop rances. T'as réussi à le faire goûter à tes clients
Oui, avec parcimonie, oui. Mais oui, avec le dosage adéquat, oui.
C'est une sacrée histoire, ça, parce que c'est un truc qui est vraiment culturel. Moi, j'ai le souvenir de quand j'étais minot, dans les gorges de l'Allier, c'était le casse-croûte, un bout de lard gras légèrement rance, avec du pain. Tu sais, on coupe le lard et le pain en même temps avec le couteau, et c'était le casse-croûte de 9h quand on était à la pêche. Et c'est un souvenir de goût qui est extrêmement fort, quoi.
C'était du loisir, toi. Moi, c'est quand je revenais des champs.
Ah oui, non, mais alors, je le fais loisir.
Ouais, mais c'est vrai que t'es jeune, toi.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des goûts qu'on peut encore porter ?
Oui,
des goûts comme celui-là ?
Oui, moi, je crois qu'on est prêt, oui. Ah oui, j'en suis persuadé.
Parce que c'est...
Non, mais je trouve que la cuisine n'a jamais été autant ouverte. À la vérité du goût.
Ça, c'est important. Oui, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est pas les paysans qu'il faut embarquer, non plus de faire des choses trop normalisées, mais de reconquérir en fait une variété de goût. Sur le rance, on est exactement dans cette histoire. Moi, il y a un beurre que j'adore, que tu connais aussi, c'est le beurre de lactosérum.
Oui.
Hein, qui est le beurre lait. Qui n'est pas fait avec la crème.
Le petit lait.
Mais avec le petit lait du Laguiole, du Salers ou du Cantal. Plein de gens trouve ça un petit peu fort comme beurre, quand même.
Enfin, bon, il y a la juste mesure aussi. Il ne faut pas le laisser trop...
Rimer dans un coin.
Oui, tout à fait. Bon, c'est un beurre qui se consomme dans l'instant ou enfin, oui. Rapidement.
Mais qui a cette acidité, ce
goût... C'est un goût à part.
C'est un goût... Il y a des gens qui disent que c'est un goût de vache.
Ah,
ça tombe bien.
Mais quand tu parles du petit lait, c'est... moi j'ai fait des boissons à base de petit lait aussi, de lactosérum avec des parfums de zeste de citron dedans. C'était intéressant.
boisson très connue en Suisse, avec une boisson. La boisson de base des Suisses, c'est une boisson à base de quillé, qui est vendue. Rivalo, un truc comme ça. Mais cette notion de quillé, elle est vraiment intéressante à travailler, parce que tu vois, c'est peut-être un élément qu'on a oublié ou mis de côté pour des histoires de productivité. Avant, ces producteurs de gros fromages, Salers, Laguiole, Cantal, avaient beaucoup de quillé. Ils faisaient le beurre. Ils faisaient chauffer le petit lait pour faire de la recuite.
Oui, on fait la recuite de lait de vache, c'est pas terrible quand même.
Oui, mais c'était...
Oui, mais il vaut mieux celle de brebis.
Oui, mais regarde les Italiens, ils envahissent toute l'Europe avec leur recuite de lait de vache. Donc, ils ont une réussite quand même qui pourrait intéresser, en termes de plus-value, les agriculteurs d'ici.
Je serais curieux de connaître la composition.
Ils rajoutent du lait pour que ça caille un peu plus. Hein.
Ah, voilà. D'accord. Tu vois. En fait.
Je vous explique la technique. C'est-à-dire que quand on a fait le fromage, il y a ce petit lait. Et si on monte ce petit lait à 82 degrés, il y a encore les protéines qui restent qui font un autre fromage plus maigre qui est assez particulier. Et la technique, pour en avoir un peu plus, une plus grande quantité, on rajoute un peu de lait frais pour avoir plus de protéines à cailler. Et ça fait un fromage un peu maigre.
Oui, c'est de la triche.
C'est de la triche, exactement. Mais ça, c'est les Italiens, on ne va pas dire. Hein. Aujourd'hui, Michel, un livre, Le Jardin, tu fais quand même un petit peu de tu travailles un peu dans des restaurants. À Paris, tu y es souvent.
Oui, j'y suis. Bon, là, j'y pars ce soir. Oh, j'y suis 3 jours par mois à peu près, voilà.
3 jours par mois, pas plus.
Non, parce qu'on a une équipe en place qui est passée à la maison, voilà.
Et pour prolonger, alors si je viens là-dessus, c'est pour prolonger dans l'histoire de la transmission. Moi, j'ai la chance d'avoir rencontré des cuisiniers qui sont passés chez toi, qui ont travaillé avec toi et qui ont un esprit très brassien, pourrait-on dire.
Qu'est-ce que c'est l'esprit brassien ?
Eh bien, justement, c'est quoi l'esprit brassien ?
C'est à toi de me le définir.
Je dirais que c'est des cuisiniers qui cuisinent leur paysage, leur environnement, leur histoire. Je pense à quelqu'un qu'on aime bien tous les deux, qui est Alexandre Bourdas, qui est originaire du sud d'Aveyron et qui s'est installé en Normandie. Et moi, il m'épate, Alexandre Bourdas, parce qu'il a adopté, en fait, là où il est aujourd'hui. Et il fait une cuisine assez simple, mais riche en goût et très précise, adapté à son territoire. Est-ce que c'est quelque chose... Tu as beaucoup d'anciens qui viennent te voir en disant « Merci, on creuse un sillon qui est plutôt toujours en renouvellement.
» Ils le traduisent peut-être pas directement comme ça. Bon, ils me portent beaucoup d'affection, on échange, voilà, c'est tout.
On arrive à la fin de notre entretien. C'est des entretiens assez courts qui sont proposés par l'Étonnant Festin. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Michel Bras ? Ah oui, en général, ça provoque toujours ça. Il n'y a pas de question. On peut le laisser partir.
Je voudrais évoquer juste un sujet parce qu'il m'est très sensible. Bon, j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie et c'est des choses qui m'ont bousculé en tant qu'homme. Et j'ai pris... Ça m'a tellement ému. Bon, je vais vous raconter deux, trois histoires qu'après, des épisodes que j'ai pu avoir dans ces établissements-là. Et j'ai pu prendre ces expériences que j'ai pu transposer après dans des EHPAD. Or, expérience de fin de vie, moi, je vais en compter au moins deux. Donc, c'était un groupe de l'agroalimentaire. Sachant que je faisais ça à Jeanne Garnier, durée du séjour moyen 14 jours. Je faisais la cuisine dans la chambre, alors je rentre dans une chambre, je fais la cuisine à une dame, je pense que c'était une vieille fille, excuse-moi du terme, 45 ans, très chétive, je lui coupe la viande, je lui aide à charger la fourchette, enfin, elle était vraiment... Elle était vraiment abîmée et 2 heures après, il y a l'infirmière en chef qui vient me voir, qui me dit « Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait à la dame de la chambre de 110, mais c'est le plus beau jour de sa vie. » Alors moi, j'étais étonné. Elle était là en fin de vie et puis elle va dire ça à l'infirmière en chef. Et je dis « Vous savez pourquoi ?» Elle me dit « Écoutez, elle a été au service des autres toute sa vie et aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui était à ses petits soins. » Donc ça, c'est quelque chose que j'ai transposé dans les EHPAD, après je vais vous le dire. Une autre chose, dans une chambre, c'était un homme assez jeune, un gabarit style rougerie pour faire un clin d'œil à Clermont. Et j'arrive avec mon ballon de rouge, moi c'est du Marsillac, hein, je ne suis pas aussi riche que vous. Et je trinquais en règle générale. Il me dit, Michel, dans l'armoire, là, il y a du Jurançon, on l'attrape et on va se la boire. Donc tout ça pour la notion aussi, quand le travail que j'essaye de faire dans les EHPAD, il arrive à un stade où l'interdit, ben, il faut passer outre. C'est-à-dire que là, on a passé un moment avec cet homme qui était merveilleux. Alors, dans les EHPAD, j'ai essayé de transposer ça, c'est-à-dire la notion du regard, cette dame. C'est-à-dire que lorsque tu sers la soupe à Germaine, le personnel soignant peut, à un moment donné, au potage de chou-fleur ou d'autres, de venir avec un bout de fromage, du laguiole, évidemment, et le rappeler, lui dire « Germaine, je vous en mets un peu plus ». Il y aura, même si elle cause pas, même s'il n'y a pas d'échange, les regards se croisent. Et là, la dame passe un moment merveilleux. Qu'est-ce que j'ai pu faire encore dans ces EHPAD? J'ai fait ça, j'ai fait plein de choses comme ça, où j'ai considéré un peu l'approche... sentimental, mettons le fromage c'est un peu interdit en EHPAD, et donc j'ai mis en place des recettes, je vais pas vous donner la recette, où quand le plat de fromage arrive, ça sent bon, et les anciens ont souvent, enfin pour ceux que j'ai côtoyés, avaient une prédilection pour le fromage. Et le fromage, quand il arrivait, il sentait bon et il était facile à consommer. Je faisais ça comme une espèce de pain perdu où ils pouvaient le manger à la cuillère. Même s'ils avaient des problèmes de dentition, ils pouvaient le déglutir. Voilà, c'est plein de choses que j'ai glanées à droite et à gauche pour essayer de mettre ce rayon de lumière, ce rayon de soleil, à ce point de chute de la journée des malades en EHPAD, parce que c'est le repas, c'est le seul point de rassurance de la journée.
Merci Michel, voilà. Des témoignages très sensibles. Je crois qu'on peut applaudir Michel et remercier d'être venu jusqu'à Clermont. Merci à vous.
Merci à Éric Roux et Michel Brasse pour cet échange gourmand. Et nous en conviendrons toutes et tous, partager un repas est un acte d'amour.